l'un des romans les plus vertigineux de la littérature française, parce que justement, il condense vraiment toutes les problématiques, c'est tout de même Le Bouvard et Pécuchet de Flaubert, qui est à la fois un roman de la copie, et l'emblème même de la copie est dans le roman, puisque Bouvard et Pécuchet sont des copistes, et qu'à la fin du roman, ils retournent à la copie.
Ils se remettent à copier.
Ils se remettent à copier. Que tout le roman est une espèce de carrousel de langage imité qui passe, n'est-ce pas ? C'est le vertige même de la copie, du fait que les langages s'imitent toujours les uns les autres, qu'il n'y a pas de fond au langage, au fond, qu'il n'y a pas de fond originel, qu'il n'y a pas de fond spontané au langage, que l'homme est perpétuellement traversé par des codes dont il n'atteint jamais le fond. Alors, au fond, la littérature, c'est un peu cette expérience-là, qui est en fait une expérience de jouissance, en quelque sorte.
Mais Flaubert, en écrivant Bouvard et Pécuchet, est-ce que c'est bien ça qu'il a voulu montrer ? Est-ce que lui, il s'est dit, je vais me mettre dans le courant de la littérature ?
Non, bien sûr bon, qu'il n'aurait pas employé ce langage-là, qu'il n'aurait pas manqué de
non, je vais
l'imiter
dire rien
parodiquement dans son roman. Je suis sûr qu'il y aurait eu à la fin tout un paragraphe sur le Bouvard et Pécuchet devenant structuraliste, n'est-ce pas, pas. Mais enfin, tel qu'il a fait, peu importe ce qu'il a voulu faire, n'est-ce pas.
Non, c'est, mais je veux dire, il y a un côté quand même dérisoire, ironique, parodique, enfin, dans...
Ah
dans
oui, seulement ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'ironie et dans la parodie de Flaubert, c'est que justement, elle ne s'arrête pas, elle n'a pas de point d'ancrage, n'est-ce pas, elle n'a pas de signifié. En réalité, on ne sait pas ce qu'il y a au bout, n'est-ce pas ? Et c'est ce que veut dire le fait que Bouvard et Pécuchet reviennent à la copie, n'est-ce pas ? C'est une traversée en quelque sorte inutile, n'est-ce pas ? Mais c'est une traversée qui désigne en quelque sorte la nature même du monde. Il y a une seule philosophie, pour le moment constituée, qui s'accorderait un peu avec cette vision, qui serait au fond la philosophie du sujet généralisé, c'est-à-dire le bouddhisme en quelque sorte.
C'est l'opposition entre le plaisir et la jouissance.
Quelle différence faites-vous entre ces deux termes ?
Oui, enfin, disons que je ne veux pas faire un sort définitif à cette distinction qui est subtile, et surtout je ne voudrais pas qu'elle permette de dresser un palmarès rigide entre des œuvres ou des textes de plaisir et des textes de jouissance. Mais disons en gros que ce qui est du côté du plaisir, ce sont les textes qui en quelque sorte apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort. Le confort renforce son moi en quelque sorte, et c'est pourquoi le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture incontestablement. Tandis que la jouissance, c'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus absolu, qui ébranle le sujet qui est en train de le lire, qui le divise, qui le pluralise, qui le dépersonnalise. C'est donc une expérience malgré tout de type très différent et qui va très souvent contre précisément la culture. C'est pas en ce sens que les textes de jouissance, qui d'ailleurs sont à mon sens très rares et évidemment variables selon les sujets, sont des textes qui ont un peu la valeur d'expérience limite, d'expérience marginale.